Bonjour à tous.
Oui, je m'en vais.
Donc on va commencer la table ronde d'entreprise de services à la personne, quels enjeux économiques. On va essayer de travailler sur la réflexion sur les différents modèles économiques qui peuvent exister aujourd'hui et les modèles économiques qui vont fonctionner dans les années à venir. Maxime Ayache va pouvoir introduire la séance. Donc Maxime Ayache, président de Acadomia et de la FESP.
Bien, bonjour à vous tous, bienvenue pour cette conférence. J'espère qu'une fois de plus elle vous intéressera et qu'on vous apportera quelques éléments d'éclairage. Merci à tous ceux d'entre vous, chefs d'entreprise et également représentants de la haute fonction publique, d'être présents. J'en vois quelques-uns devant nous. Juste quelques mots pour lancer le débat sur cette conférence. L'enjeu des services à la personne, je vais simplement vous rappeler quelques grands chiffres et puis ensuite je passerai la parole pour ne pas m'éterniser. Services à la personne, ce sont 4,5 millions de personnes qui ont recours régulièrement, de ménages qui ont recours à nos services. Ce sont plus de 2 millions de personnes qui y travaillent. Donc c'est un vrai secteur d'activité. C'est encore un secteur d'activité certes particulier, mais c'est un vrai secteur d'activité économique. C'est un secteur d'activité économique qui a une extraordinaire particularité dans le monde des services. C'est que, je dirais, comme dans l'industrie, nous avons une concurrence qui est généralement celle de pays à main d'œuvre pas chère. Par exemple, les Chinois, ben nous aussi, nous avons nos Chinois, mais à proximité, la porte d'à côté. Ce sont tous les gens qui travaillent de manière occulte. Et c'est pour nous une concurrence qui est assez importante. Et malgré tout, nous avons une économie qui est assez importante. C'est une économie qui, pour pouvoir être compétitive par rapport au travail au noir, s'appuie sur une réglementation que vous connaissez tous, qui est celle, je dirais, de la solvabilisation avec une réduction d'impôt de 50%. Donc c'est un élément qui est important. Et un point qui est essentiel également dans ce dispositif, c'est que lorsqu'on fait les comptes et lorsqu'on calcule et on dit finalement c'est beaucoup d'argent qui est alloué à notre secteur et qu'on fait les comptes, et bien on se rend compte que lorsqu'on met tout à bout les dépenses, le 50% de réduction d'impôt qui est le manque à gagner pour l'État, et qu'on met de côté et bien qu'est-ce qu'on crée comme emploi, ce qu'on rapporte comme recettes fiscales et taxes diverses, et bien on se rend compte que notre secteur rapporte de l'argent. Donc c'est un élément qui est quand même très important puisqu'on va s'appuyer dessus pour pouvoir prospérer. Un autre élément également dans ce secteur qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est un secteur qui pourrait, et j'utilise bien le conditionnel, qui pourrait créer beaucoup plus de richesses qu'il n'en crée, qui pourrait créer beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée. Les études McKinsey récentes que nous avons effectuées nous amènent à penser qu'on pourrait créer 180 000 emplois dans les 3 à 5 ans qui viennent, donc c'est tout à fait considérable. Et pour autant, il y a un certain nombre de freins qu'il conviendra de lever. Ce sera l'enjeu notamment de cette conférence. Et puis je voudrais surtout conclure cette très rapide présentation en vous disant que notre secteur d'activité est un secteur d'activité qui s'appuie sur la technologie, qui s'appuie sur les activités du web, et j'en dirai simplement deux mots. Tout d'abord, sur notre organisation, il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui ne parle pas de CRM, qui ne parle pas d'Internet, sur lesquels nos modèles d'organisation s'appuient sur les technologies informatiques. Et puis naturellement, on va commencer à parler de cette vraie économie, mais pas seulement, puisqu'on va parler également de domicile, on va parler d'objets connectés, et on va se rendre compte que finalement, ce qui compte, c'est le domicile, mais ce qui compte, c'est l'objet. Et finalement, autour du service qu'on va apporter, il y a toute une économie, tout un écosystème finalement qui est en train de se créer. Je dirais donc notre secteur est un secteur à la fois très traditionnel en termes d'emploi, porteur de valeur et porteur d'avenir. Encore convient-il qu'on ait les éléments pour pouvoir atteindre nos objectifs en termes de stabilité réglementaire, en termes de discours et de messages politiques pour nous permettre de travailler. Voilà. Ce seront tous les éléments qui seront abordés pendant ces tables rondes. Et je vous souhaite donc à vous tous beaucoup de travail et une bonne écoute. Naturellement, n'hésitez pas à poser vos questions et nous essaierons d'y apporter des réponses. Merci à vous tous et je repasse la parole à Xavier.
Merci Maxime Ayache. Donc on va faire cette table ronde à la recherche du modèle économique à venir, pas à la recherche du modèle économique perdu, puisque les entreprises de services à la personne sont un des grands acteurs de création d'emplois encore aujourd'hui. Et en même temps, donc ce secteur dynamique depuis environ 2005 n'a pas encore donné tout son potentiel. C'est un peu l'impression qu'on a. Il a généré beaucoup d'entreprises, des petites comme des grandes, jusqu'à l'ETI, jamais jusqu'à au-delà de l'ETI, donc entreprise de taille intermédiaire. Et donc, c'est un secteur dont on nous dit qu'il a un potentiel d'emploi. Chaque année, on nous dit qu'il a un potentiel d'emploi. Et d'une certaine manière, on a l'impression que ce potentiel ne s'est pas encore réalisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Sandra Kussmann-Burgo? Vous êtes présidente du SESP et présidente d'une entreprise qui s'appelle Ecom Enfant. Plutôt une petite entreprise de service à la personne.
Bonjour, oui, alors qu'est-ce qu'on... I comme enfant, c'est E comme enfant.
E comme enfant.
C'est ouais. I sur la version technologique et internet, mais autrement alors, c'est E comme enfant.
On va garder sur le E.
Enfin, je sais pas, c'est les instits autrement qui ne sont pas sûrs d'apprécier le I comme enfant. Qu'est-ce que je voulais dire? Simplement sur, au prime abord, quelques chiffres qui sont importants. Maxime Ayache a rappelé le nombre de consommateurs, de bénéficiaires et de salariés. Rappelez également les chiffres de l'ACOS, 16% de croissance pour les chiffres de l'ACOS au niveau des entreprises. C'était sur 2012, voilà. Alors que le reste du secteur est plutôt en décroissance, notamment chez les particuliers employeurs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, de rappeler l'étude qu'avait fait Oliver Wyman. Pour 1 euro investi par l'État dans les services à la personne, les entreprises rapportent 1,9 euro, les associations 1,6 euros et le particulier employeur 1,3 de mémoire. Donc c'est un secteur qui, dans les enjeux économiques, il faut aussi voir les enjeux économiques pour les pouvoirs publics et pour l'État, puisque c'est un secteur qui regroupe beaucoup de domaines. Donc voilà, c'était rappeler quelques chiffres là-dessus. Les enjeux économiques, donc, ce sont pour l'État, pour les consommateurs, pour les salariés, pour nos entreprises, pour les entreprises qui vont se créer aussi, celles qui arrivent demain. Et puis, sur les enjeux économiques, il y a également tout ce dont on parle maintenant, le domicile connecté, la silver economy, les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, ce n'est pas uniquement sur une filière. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que les nouvelles technologies, c'est sur la filière du grand âge uniquement, sur la silver economy, comme on en parle... là dans ce salon, mais les nouvelles technologies, c'est tous les secteurs de service à la personne. C'est quelque chose sur lequel on peut développer les nouvelles technologies et donc des branches, des filières, des investissements, des nouveaux emplois, également sur les enfants. Ce qui va pour les personnes âgées, on peut très facilement l'adapter, par exemple, pour les enfants, mais de la même manière pour le domicile, de manière générale. Aujourd'hui, on parle de domicile connecté, pas uniquement pour la filière du grand âge, mais pour tout le secteur des services à la personne. Et puis un dernier petit point peut-être pour poser, puis après je pense qu'on pourra répondre différemment aux questions. Les enjeux économiques de notre secteur, ils sont pluriels parce qu'il y a autant de formules, de schémas que d'entreprises, autant de schémas que de gouvernements ou de ministres à qui on s'adresse. Il y a autant de schémas que de régimes. Je vous rappelle qu'on fonctionne sous trois régimes, vous le savez tous, le mandataire, le prestataire, la mise à disposition. Ce sont trois régimes qui se complètent les uns les autres. Et donc tout ça modifie très fortement les enjeux économiques au niveau de chaque entreprise. Donc il y a autant d'enjeux et autant de schémas que d'entreprises et de modes de fonctionnement.
D'accord. Du coup, on va explorer un petit peu ces schémas. Vous êtes sur plusieurs types de sujets, peut-être mandataire, aussi prestataire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux types de schémas, par exemple, et comment ils peuvent fonctionner?
Alors, dans l'entreprise de Ecom Enfant, on est en effet en prestataire et en mandataire, et pourquoi pas demain en mise à disposition. Ce sont, sur de la garde d'enfants, ce sont des schémas qui se complètent les uns les autres. Ils ne nécessitent pas les mêmes investissements, ils ne nécessitent pas les mêmes back-office, ils ne nécessitent pas les mêmes opérations de communication, les mêmes outils. Et donc, à chaque fois, sur chaque modèle, il faut arriver à trouver ce qui va se compléter et ce qui va permettre de gérer mieux l'entreprise. En mode mandataire, nous ne sommes pas l'employeur, mais malgré tout, nous devons apporter en mode mandataire la même qualité que si nous étions nous-mêmes l'employeur de la salariée, avec le même suivi, avec les mêmes contrôles qualité et avec le même sérieux vis-à-vis du particulier, alors que c'est lui qui en est l'employeur.
D'accord. Alors vous, Guillaume Staub, vous êtes directeur du développement d'Amelis Group Sodexo. Vous êtes une société qui a intégré un grand groupe, donc vous avez choisi un type de schéma. Est-ce que c'est celui-là qui est celui d'avenir ?
Bonjour à tous. Nous, en effet, Amelis est une entreprise qui est spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. C'est une entreprise qui a été créée en 2002 dans les Yvelines, et aujourd'hui, donc depuis 2 ans, nous sommes une filiale à 100% du groupe Sodexo, donc on a été racheté par le groupe Sodexo, plutôt connu dans son cœur de métier qui est la restauration collective. Et Sodexo est une entreprise qui se présente comme une entreprise de service de qualité de vie. Naturellement, il était important pour eux de pouvoir présenter ce type de service dans l'aide et le maintien à domicile, sachant que Sodexo a déjà une petite expérience dans le maintien à domicile, certes pas en France mais aux États-Unis, puisqu'ils avaient là aussi racheté une entreprise spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées. Donc nous, on a trouvé que c'était intéressant dans le sens où, enfin, une grande entreprise comme Sodexo s'intéressait au secteur des services à la personne, des services aux particuliers, et ça permettait de mettre la lumière sur l'ensemble de ces métiers. C'est un secteur qui est assez atomisé, qu'un grand groupe comme Sodexo s'intéresse à ce secteur, ça ne peut être que du positif. En termes de professionnalisation, en termes de formation, il y a énormément de choses à apprendre de leur part. C'est une entreprise qui un vrai savoir-faire en termes de, je dirais, de formation, de management, de masse salariale pléthorique sur des métiers qui sont finalement pas si éloignés que les nôtres, des nôtres. Et donc, on a en effet aujourd'hui un actionnaire qui partage en plus des valeurs humaines très fortes avec nous, et ça c'est essentiel dans notre activité, et qui avec lui permet de mettre un petit peu en avant, comme d'autres, hein, il n'y a pas que Sodexo, mais ces métiers d'aide et de maintien à domicile, tout comme l'ensemble des métiers et des services liés aux services aux particuliers.
Alors vous, Sodexo est sur 3 métiers, si je comprends bien, senior, crèche, conciergerie.
Alors dans notre on dépend d'une division, en effet, qui s'appelle service aux particuliers, dans lequel vous retrouvez les crèches, le maintien à domicile et la conciergerie.
C'est un atout, ça, ou c'est pas forcément utile d'être sur plusieurs métiers à la fois ?
Si, c'est un atout, parce que, tout simplement, ça permet de proposer aussi une offre à l'ensemble de nos clients, d'avoir une offre différenciante. Je prends un exemple, Sodexo et que vous traitez avec des collectivités locales ou territoriales sur de la restauration collective, c'est vrai que c'est pas forcément inintéressant de pouvoir leur proposer aussi derrière aussi bien de la conciergerie que de la crèche ou du service en particulier avec du maintien à domicile qui sont aujourd'hui des métiers que les communes concrètement, mais Rémus pourra aussi en parler, font de moins en moins, ou en tout cas ont besoin d'avoir des structures comme les nôtres pour gérer notamment la continuité de service. Puisque les acteurs publics ne sont pas en mesure d'assurer cette continuité de service 7 jours sur 7, donc ils passent des conventions de partenariat avec nous pour justement gérer cette continuité de service le soir et le week-end.
Alors justement, Rémus Diaconescu, Guillaume vient de vous d'évoquer votre nom, vous êtes président de ProSenior, donc vous avez choisi un autre type de modèle économique, racontez-nous lequel ?
Alors, bonjour tout d'abord. Effectivement, donc moi je dirige le groupe ProSenior, qui est une entreprise de services à la personne dans le maintien à domicile. Nous avons été créés en 2008 et nous avons 9 agences aujourd'hui, 300 collaborateurs. Donc le modèle économique, il est assez similaire hein, au final. Guillaume a eu une opportunité avec Sodexo. Aujourd'hui, celle-ci ne s'est pas présentée pour nous, on ne l'a pas non plus cherchée. Mais en soi, le service proposé est assez similaire. Nous sommes indépendants. Nous sommes lancés en fait dans ce secteur pour 2 raisons qui sont très simples. En 2008, nous avons fait le constat que, de manière générale, les services à la personne étaient sous-développés en France par rapport à d'autres pays européens, notamment le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Donc ça, c'était le premier constat général. Et le deuxième constat était que sur le secteur de la dépendance, la population âgée va augmenter jusqu'en 2050. Donc il y a fondamentalement une augmentation de la demande de manière naturelle. Ça, c'était la première chose, le premier constat. Et le deuxième constat qui nous faisait vraiment croire dans ce secteur, c'était simplement le fait que le maintien à domicile nous semble prometteur. Prometteur pour deux raisons. La première est que le maintien à domicile coûte 3 fois moins cher que le placement en établissement, ce qui est un facteur non négligeable, notamment aujourd'hui dans un cadre de réduction des dépenses. Le deuxième point est que l'espérance de vie est plus importante à domicile qu'en établissement, ce qui fait que les gens naturellement veulent rester à domicile. Et enfin, le troisième point, c'est que ça coûte en plus moins cher au client final, qui est donc la personne âgée, puisque le restant à charge du maintien à domicile représente en moyenne 250 euros par mois, alors que le restant à charge lors d'un placement en établissement coûte à peu près 1500 euros par mois. Voilà, donc voilà les raisons qui nous ont fait choisir ce modèle, mais qui aujourd'hui est quand même sensiblement proche de celui d'Amélis, modulo de l'actionnaire qui est différent en l'occurrence. D'accord.
Valérie Obadia, vous êtes directrice des exploitations de Cogedim Club, donc plutôt dans le résidentiel. Vous partagez le constat de Rémus?
Tout à fait. Donc nous, au niveau des résidences-services, nous avons dû développer l'activité service à la personne, mais nous rencontrons effectivement les mêmes problématiques que les acteurs entreprises du service à la personne. Sachant que le service à la personne en résidence-service est vraiment un complément, une continuité de l'ensemble des services qu'un exploitant peut mettre en place dans sa résidence-service.
D'accord. Donc pour rebondir sur le sujet, le potentiel de a l'air conséquent, c'est ce que dit Rémus. Et en même temps, c'était ma question du départ, on a l'impression que ce potentiel ne se réalise pas toujours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, freins et potentiel?
Alors à la Chambre de commerce, nous suivons le secteur des services à la personne sous forme d'enquête régulière auprès des chefs d'entreprise. Donc j'ai préparé un petit diaporama.
Merci.
Puisqu'effectivement, c'est un secteur avec du potentiel, mais les chefs d'entreprise rencontrent quand même des difficultés importantes dont je vais vous parler. Bon, d'abord, sans vous abreuver de chiffres, en Île-de-France, aujourd'hui, les services à la personne, c'est 225 000 salariés, c'est 4% de l'emploi salarié régional. C'est 4 700 organismes de services à la personne, donc de tout statut. Savoir que ce nombre a doublé entre 2008 et 2011, essentiellement grâce au développement des entreprises privées et des auto-entrepreneurs. Et les organismes prestataires emploient 45 400 salariés, c'est 20% de l'emploi du secteur. La sphère privée représente 80% des organismes et réalise 42% des heures rémunérées. Sur la diapo suivante, vous verrez qu'on a fait avec l'INSEE et l'IAU une étude sur les perspectives de développement des services à la personne à l'horizon 2030. Donc on est toujours sur l'Île-de-France. Et on voit que l'effet des évolutions démographiques devrait générer 92 000 ménages supplémentaires clients des services à la personne, soit une hausse de 18%. Les besoins resteraient essentiellement dans le secteur des services à la vie quotidienne, c'est-à-dire ménage, repassage, mais le vieillissement de la population devrait générer des besoins plus importants chez les personnes âgées et dépendantes. Et il y aurait donc plus 70% de ménages utilisateurs chez les 75 ans ou plus d'ici à 2030. Et c'est d'autant plus vrai qu'en Île-de-France, on manque de structures d'accueil collectives pour les personnes âgées. Et donc, pour faire face à l'ensemble de ces nouveaux besoins, il faudrait recruter 40 000 personnes supplémentaires, ce qui revient à 18 000 personnes à équivalent temps plein. Donc, il y a donc un potentiel important en termes de marché, en termes de création d'emplois, mais on va voir que les chefs d'entreprise sont exposés à des freins importants dans leur activité. Donc là, en avant-première, je vais vous donner les premiers chiffres d'une enquête qui vient juste de se clore. On n'a pas encore l'ensemble des résultats. Je pense que c'était important de montrer cette question-là. Quand on leur demande de quel appui auriez-vous besoin pour développer votre activité, mais vous voyez, ils sont pratiquement 8 sur 10 à demander la stabilité fiscale. 7 sur 10, la stabilité réglementaire. Il faut dire que c'est un secteur qui a connu beaucoup, qui connaît beaucoup de modifications réglementaires fiscales. On a compté au moins 7 dispositions fiscales défavorables aux services à la personne prises en 3 ans. Et donc, les chefs d'entreprise souffrent vraiment de cet état d'incertitude permanente. Ça entraîne pour eux un manque de visibilité sur leur activité qui est préjudiciable, bien sûr. Et le deuxième point qui apparaît de manière forte dans l'enquête, vous voyez, c'est dans les deux réponses suivantes, c'est le reproche de distorsion de concurrence entre les différents opérateurs, entre les entreprises et les associations notamment, puisque les associations ne paient pas la TVA. Et c'est un point qui est très sensible pour les entreprises au moment où la TVA a augmenté, et parfois beaucoup, selon les activités de service à la personne. Donc, voilà. Puis on reproche aussi aux décideurs publics de favoriser souvent les associations au détriment des entreprises. Alors, cela dit, il ne faut pas oublier que la concurrence la plus déloyale pour les entreprises, c'est celle exercée par le travail au noir. Quand on demande aux chefs d'entreprise, est-ce que vous pensez que la concurrence du travail au noir a augmenté, ils sont 3 sur 4 à nous dire oui, elle a augmenté ces dernières années. Et puis voilà, sur la diapo suivante, vous voyez, on ne peut pas parler des freins au développement des entreprises sans parler des problèmes de recrutement, puisqu'ils sont, vous voyez, quasiment 90% à rencontrer des difficultés d'embauche. Et en plus, ces difficultés s'accentuent au fil des années. Donc ils sont encore 3 sur 4 à juger que ces difficultés s'accentuent, et même en période de hausse du chômage.
Sandra Kursman-Burgo, qu'est-ce que vous pensez de ces données?
Elles reflètent bien la réalité du terrain. Pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, quand on parle de la concurrence, on parlait en effet des mesures qui ont été prises depuis maintenant 2010 pour les premières qui sont arrivées. Qui ont à chaque fois impacté le secteur des services à la personne, et dans ces mesures, elles ont favorisé en effet premièrement le travail au noir, on en parlait tout à l'heure et Maxime Ayache le rappelait dans son introduction. Deuxièmement, elles ont favorisé quelque chose de plus insidieux qui s'appelle le travail au gris, et c'est quand même notre quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire que les bénéficiaires ont toujours besoin des services, sauf que le panier moyen diminue. Mais l'intervenante, elle est quand même, malgré tout, toujours au domicile. Donc il y a toute une partie qui est déclarée et une partie, en effet, qui elle, est passée au noir. Et puis il y a une troisième concurrence que l'on voit apparaître là depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, et vraiment là depuis quelques mois de manière extrêmement importante, ce sont les plateformes Internet. C'est vrai que Maxime Ayache l'a évoqué très rapidement dans son introduction. Vous avez des géants de l'Internet ou des géants avec des investisseurs de très gros fonds d'investissement derrière eux qui ont mis en place des plateformes de mise en relation entre les particuliers et les salariés avec des tarifs défiant toute concurrence, que nous, entreprises qui payons nos charges, la TVA, les impôts, etc., nous ne pouvons pas pratiquer. Vous avez des gens qui vendent à 15,90 €, moi, il faut qu'on m'explique comment ils arrivent à payer les gens correctement. Par le dumping, avec ce dumping sur les prix, ils sont en train de prendre toute une part de clientèle pour nos entreprises, notamment sur des régions comme l'Île-de-France, on l'a beaucoup vu, parce qu'ils sont peut-être plus implantés sur l'Île-de-France, mais également ils nous prennent beaucoup de salariés. Les salariés aujourd'hui, ce sont les gens qui sont les mieux référencés sur Internet, ce sont les gens qui ont des forces de frappe qu'on voit faire des pubs à la télé, que l'on voit un peu partout. Ils ont des forces de frappe que nos entreprises ne peuvent pas avoir. Et du coup, ils rendent nos difficultés de recrutement encore plus exacerbées.
Alors, on est dans le champ de la technologie, là. Parlons technologie un petit peu. Alexis Roche, vous êtes trésorier d'Asipag, directeur général de la Sistel. Il n'est pas là. Bon, et bien, donc on n'en parlera pas avec lui aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Je peux réagir deux minutes sur ce que disait Sandra à l'instant, qui est essentiel. Au-delà de nos activités, dépendance, garde d'enfants, ce que disait Sandra est important sur les sites internet intermédiation qui met en relation l'offre et la demande. C'est pas le problème de mettre en relation l'offre et la demande, on est dans une économie libre, mais la question de la professionnalisation et la qualité de l'emploi forcément s'en ressent, et aujourd'hui on a vraiment besoin d'une vraie professionnalisation et une qualité de l'emploi pour répondre aux besoins de recrutement que va connaître le secteur dans les 10 ans à venir, pour faire de ces métiers, donc de service à la personne, des vecteurs de qualification et de carrière professionnelle. Et donc nous, on a un véritable rôle à jouer en tant qu'entreprise, en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de carrière professionnelle, et aussi de pouvoir ouvrir nos métiers, qui sont des vrais métiers, qui ne sont pas des petits métiers, et c'est important de le dire, on a toujours considéré tous que c'était des vrais métiers, à des vraies carrières. Et donc pour cela, il faut que derrière, qu'il y ait des entreprises qui puissent accompagner, former, proposer justement des carrières, des passerelles dans l'ensemble de ces métiers. Et c'est vrai que de voir un petit peu cette intermédiation entre offre et demande avec des auxiliaires de vie qui se présentent tout de suite, puis qui sont peut-être un peu en déficit de formation, peut de temps en temps porter un peu atteinte à l'image des services à la personne, où on dit bah, finalement c'est peu qualifié, ce sont des petits métiers, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de suivi, alors que derrière il y a des entreprises comme les nôtres, quelle que soit la taille, qui investissent énormément pour que justement il y ait une vraie reconnaissance de ces métiers avec une professionnalisation et une véritable qualité de l'emploi. Et ça, c'est important dans nos métiers. Si Rémus, tu...
Rémus...
Non, tout à fait d'accord. Hein. Je pense que le modèle de ces sites est que les personnes en fait qui sont embauchées sont fortement encouragées à prendre le statut d'auto-entrepreneur, ce qui limite de facto les charges, ce qui, je rejoins tout à fait Sandra sur ce point, est une concurrence déloyale parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. En dehors de tous les aspects de professionnalisation que Guillaume souligne à juste titre, il ne faut pas oublier que dans les entreprises comme les nôtres, nous garantissons l'emploi et qu'à partir du moment où un contrat de travail est signé, le salarié a une garantie de salaire à la fin du mois, peu importe si on peut leur fournir le travail en conséquence ou non, ce qui leur permet donc d'avoir déjà une garantie et ce qui est surtout conforme à la loi française en la matière. Donc effectivement, il y a un détournement du statut d'auto-entrepreneur qui, me semble-t-il, n'était pas du tout prévu à cet effet, puisqu'il est réintégré finalement de manière détournée dans une organisation pour occulter les contraintes du contrat de travail, et notamment de la loi sur les 24 heures qui nous pénalise tous aujourd'hui dans le secteur des services à la personne. Et donc c'est un vrai problème. Oui.
Valérie Obadia, dans les résidences-services...
On n'est pas confronté tout à fait aux mêmes problématiques. Néanmoins, en matière de recrutement, en matière de formation et en matière de suivi du personnel, effectivement, nous mettons en œuvre les mêmes moyens que nos confrères.
Voilà. D'accord. Donc on voit quelques freins apparaître. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, notamment autour de l'accès au financement, dans l'implantation de nouvelles structures qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Sandra Kunzmann-Burgo?
Sur le problème de l'accès au financement, moi j'ai une petite entreprise, hein, pour le coup c'est vrai que je ne suis pas forcément présentée I comme enfant, ou E comme enfant, qui est une petite entreprise créée en 2005, on a 4 agences en propre, on se développe tout doucement, voilà. Pour parler le financement, moi je l'ai vécu. On a cherché à un moment donné auprès des banques un appui pour pouvoir ouvrir une agence supplémentaire. Ben, les banques, c'est fin de non-recevoir ou alors vous êtes caution personnelle sur vos biens, etc. Pour une entreprise qui faisait à l'époque plus d'un million cinq de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, je trouve ça un peu léger quand on veut emprunter 40 ou 50 000 euros d'être obligé d'être caution sur ses biens personnels. Ça, c'est les banques. C'est les choses qui sont... c'est du classique, quelle que soit la banque, ils sont à ce niveau-là. Après, les financeurs, alors il y a des financements, il y a des fonds de pension.
Parlez bien dans le micro, on vous entend.
Il y a des fonds de pension, il y a des investisseurs, etc., qui investissent dans les entreprises de services à la personne. Mais c'est aussi très difficile. Vous avez des choses extrêmement variées. Avec des tickets, vous avez les family potes qui interviennent sur des petits tickets, on va dire inférieurs à 500 000 euros, mais 500 000 euros pour une petite entreprise, c'est énorme, et vous perdez le contrôle de votre entreprise dans la foulée. Ou alors qui interviennent avec un ticket minimum de 5 millions d'euros. Et 5 millions d'euros, quand vous avez vos deux agences, vous n'en avez pas besoin des 5 millions d'euros, parce que vous ne savez pas quoi en faire au démarrage. Et donc on se retrouve dans des difficultés pour avoir accès à des financements extérieurs, parce que on ne trouve pas, les banques ne nous font pas confiance. La BPI, moi j'ai essayé, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site internet de la BPI, mais j'ai toujours pas compris où il fallait aller voir. Pourtant j'ai cherché. Hein. Et sur les fonds extérieurs, vous n'êtes pas forcément dans leur cible à chaque fois, sinon à perdre totalement le contrôle de votre entreprise. Donc c'est difficile en effet de trouver des financements pour accompagner le développement des entreprises quand elles sont encore à cet état, on va dire, de petite de TPE.
Guillaume Staub, plus facile chez Sodexo ou avec Sodexo ?
Plus facile, le parcours, oui, avec Sodexo, forcément, vous avez la possibilité de vous développer plus vite, vous bénéficiez de synergies et de ressources. Maintenant, si je peux me permettre, Sandra, je nuance un tout petit peu tes propos sur le financement. Après, vous avez des fonds, en effet, d'investissement qui prennent la majorité de votre boîte. Tous les fonds d'investissement ne prennent pas la majorité de votre boîte. L'objectif, c'est quand même de faire travailler les fondateurs et les créateurs et qu'il y ait un véritable intérêt à développer la structure. Maintenant, pour revenir à Sodexo, ce qui est important avec Sodexo, c'est que voilà, il y a un véritable projet. C'est que pour Sodexo, le service à la personne dans leur domaine d'activité est un relais de croissance. Ils y pensent depuis un certain temps. Et puis, encore une fois, je trouve que c'est bien que des entreprises aussi importantes que Sodexo, qui a été créée il y a 50 ans par Pierre Bellon, qui est toujours aux commandes de son entreprise avec sa famille, s'intéressent à ces métiers de service à la personne et donc se donneront les moyens de valoriser l'ensemble de ces métiers, de ces filières, aujourd'hui et dans les années à venir.
La CCIP, est-ce qu'elle suit cette question de l'accès au financement des TPE-PME
Bénédicte Galbert. Je ne suis pas à l'appui des entreprises, donc je ne peux pas vous dire dans le détail. Je m'occupe des études et donc notamment des enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Et ce qu'on a observé, c'est essentiellement que quand on leur demande leurs préoccupations quotidiennes, c'est le recrutement avant même le fait de chercher des nouveaux clients. Et sinon, sur le plan économique, c'est un secteur hyper concurrentiel avec des marges assez étroites et une clientèle extrêmement sensible au prix. Donc c'est une équation très difficile à résoudre pour les chefs d'entreprise.
D'accord. Et vous, Valérie Obadia, donc chez Cogedim Club, dans les résidences, dans les groupes de résidences, est-ce que c'est plus facile ou...
Non, pas du tout. On a les mêmes écueils. Qui plus est, nous nous adressons essentiellement à des seniors, une moyenne d'âge de 75 ans, donc une population très sensible. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de formation, on démultiplie les moyens. Et en plus, nous avons en concurrence les entreprises implantées dans les villes, puisque nos clients sont libres de choisir soit les services que propose par exemple Cogedim Club, soit les services de telle ou telle marque. Donc on se doit, en résidence-service, d'être les meilleurs.
Ouais. D'accord. Alors on a évoqué tout à l'heure les plateformes Internet. Est-ce que la formation n'est pas un sujet qui permettrait de faire la différence je ne sais pas, Rémus
Effectivement, la formation est un sujet primordial, je pense, dans ce secteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans des secteurs à forte contenance de main d'œuvre, puisque dans nos activités, Guillaume pourra me corriger, mais 80-85% de nos charges sont des salaires. Autant dire que l'activité passe par l'humain. Et par conséquent, il y a deux points clés pour réussir dans ces activités. C'est tout d'abord le recrutement, ça paraît évident. Je le rappelle en ce qui nous concerne, hein, nous avons 300 collaborateurs aujourd'hui, il a fallu donc les recruter. Mais le recrutement ne suffit pas. le recrutement doit être par la suite accompagné par un encadrement efficace au quotidien, puisque vous avez beau avoir les meilleurs salariés du monde, s'ils ne sont pas correctement encadrés au quotidien, ça ne donnera jamais rien de bon. Et cet encadrement, à toutes les étapes de l'encadrement, vous allez repérer des lacunes, puisque personne n'est parfait. Je voudrais pouvoir l'affirmer aujourd'hui, mais on ne le sera probablement jamais. Ceci dit, ce que nous devons faire, c'est corriger ces lacunes, corriger les oublis à travers la formation. Et il semble essentiel dans nos activités de construire des plans de formation cohérents qui permettent à la fois de corriger les lacunes, à la fois d'apporter les compétences nécessaires éventuellement pour les évolutions de prestations, puisqu'il est évident que dans le secteur dans lequel je travaille, on n'a pas besoin des mêmes connaissances pour une personne relativement autonome de 70 ans que pour une personne qui a une sclérose en plaques ou qui est en soins palliatifs. Et donc ça nécessite à la fois des compétences et à la fois de la spécialisation dans certains domaines. Et c'est un investissement conséquent aussi bien en temps pour préparer ces programmes de formation qu'en matière de financement, parce qu'en ce qui nous concerne, les enveloppes qui sont mises à disposition par les OPCA, donc par les organismes collecteurs des taxes à la formation, ne suffisent pas, ni de près ni de loin.
Et vous, Guillaume, sur la formation, des commentaires ?
Pas particulièrement, je rajoute... Non, enfin, ce que dit Rému, c'est parfaitement juste. C'est un secteur qui est un secteur qui est fabuleux, les services à la personne d'une manière générale, alors encore plus dans le domaine que je connais, qui est le service auprès de personnes âgées dépendantes comme Rémus, mais c'est un secteur qui, en plus, va augmenter de 35% d'ici 2030 pour à peu près atteindre 1,5 million de personnes âgées. C'est une vraie source de création d'emplois, qui sont des emplois non délocalisables. Il y a un facteur humain qui est aussi essentiel et qui est très important. Dernière étude du Figaro, c'est que 90% des personnes âgées souhaitent rester à domicile, tout simplement, le plus longtemps possible, 90%. À nous de leur apporter un vrai service de qualité pour leur permettre de rester chez elles en toute sécurité, avec justement, comme disait Rémus, des auxiliaires de vie compétentes, formées, qu'on doit former d'ailleurs pendant toute leur vie professionnelle, comme je dirais n'importe quel poste dans n'importe quelle entreprise. Mais vraiment mettre en avant l'ensemble de ces métiers, ça c'est un véritable enjeu pour que ces métiers soient reconnus et pouvoir aussi, je dirais, ouvrir ces métiers à d'autres profils. Il y a une méconnaissance totale sur ces métiers, on a toujours l'impression que c'est un petit métier, que en gros l'auxiliaire de vie c'est finalement c'est une femme de ménage plus, mais rien d'autre, et en fait ça va bien au-delà de ça. Je serais incapable de faire ce qu'elles font à longueur de journée de 8h du matin à 18h. Ça nécessite de grandes qualités humaines. À nous de leur apporter derrière toute la formation technique et essentielle et toutes les carences qu'on peut retrouver dans certains domaines. Mais en revanche, cette partie-là est essentielle. Ils sont les enjeux de demain parce que les besoins de la génération, qui est la génération baby-boom, qui va arriver d'ici 15, 20, 30 ans au moment de la dépendance, auront des attentes en termes de services et de besoins qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec les personnes dont on s'occupe, qui concrètement ont l'âge de mes grands-parents, 85 ou 90 ans, qui ne sont pas du tout connectés comme la génération de mes parents qui ont 65 ans et dont les attentes seront bien différentes justement dans 20 ou 30 ans. À nous de préparer aussi cette évolution sur l'ensemble de ces métiers, sur le domicile, comment améliorer justement le domicile connecté, comment améliorer la sécurité à domicile, comment justement promouvoir l'ensemble de ces métiers. Donc c'est un domaine passionnant où il y a beaucoup de choses à faire et dont les enjeux finalement, j'en doute pas une seconde, on arrivera à les relever sans problème.
Alors on a bien compris le potentiel et l'utilité. Pour vous aider à vous développer, si vous aviez quelques souhaits pour renforcer la dynamique économique, Rémus, en un mot.
Bah, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Pour nous aider à nous développer, il faut déjà une stabilité des règles qui ont été mises en place. On a pu voir ce qui s'est passé notamment sur le secteur du particulier employeur lorsque les règles fiscales ont changé. Il y a eu une baisse d'activité et ça a été la première baisse d'activité de l'histoire du des services à la personne. C'est assez marrant parce que finalement, ce n'est pas les besoins qui disparaissent, ce n'est pas possible. Je me souviens d'une phrase du PDG de Procter & Gamble lorsqu'on l'interrogeait sur le marché du papier de toilette en cas de crise. Et il répondait une chose qui était très simple, c'est que crise ou pas crise, on achète quand même du papier toilette. Tout simplement parce qu'on imagine bien la situation cocasse dans laquelle on se trouve si on n'en a pas chez soi. Et tout ça fait qu'il y a une dérive vers le secteur du travail au noir qui est dommageable à la fois pour les salariés qui ne sont plus protégés et à la fois pour l'État qui n'encaisse plus ni la TVA ni les charges sociales. Donc tout d'abord une stabilité. Ensuite, au risque de rentrer dans l'actualité du moment et d'aborder des généralités, les charges sociales dans un secteur comme le nôtre sont à la fois élevées malgré le fait qu'on nous aide depuis 2 ans maintenant avec le CICE, quid de savoir ce qu'il va se passer à partir de 2016. Et enfin, je pense que les pouvoirs publics ont besoin de prendre conscience des spécificités de ce secteur pour à la fois ne pas mettre en place des réglementations du type loi sur les 24 heures minimum sur les contrats de travail, ce qui est quelque chose de totalement incohérent par rapport à notre secteur à cause, un, des besoins de nos clients, deux, de la multiplicité des employeurs. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à respecter et qui n'aboutit de manière mécanique à une baisse de nos charges parce que nous avons des salariés forcément qui ne travaillent pas mais qui sont payés à cause de cette loi. Et également le compte pénibilité alors Marisol Touraine disait ce matin qu'il s'agit d'un simple clic en fin d'année. Écoutez, moi je n'ai pas cette lecture là de ce que j'ai pu voir sur le sujet, mais bon, je ne suis pas ministre, alors peut-être que je m'avance pas plus sur le sujet, mais on rajoute quand même une charge supplémentaire à un millefeuille administratif qui est déjà conséquent. Et moi, en tant que chef d'entreprise, tout ce que je dirais, c'est qu'au lieu de passer du temps à générer des données, à transmettre des données, bah, il vaudrait mieux le consacrer au développement de notre activité et donc au développement de l'emploi. Voilà.
Et vous, Sandra Kussmann-Burgo, des éléments, des souhaits pour le futur ?
Alors, pour le futur, je crois qu'en effet, on parlait tout à l'heure du désir de stabilité réglementaire que tous les chefs d'entreprise interrogés ont exprimé. C'est en effet cette stabilité réglementaire et fiscale est essentielle. Je voulais simplement rappeler que ce que disait Maxime, je crois, cette mesure sur les 4 dernières années qui ont impacté les services à la personne. Alors bon, c'est de la suppression de la loi TEPA sur les heures supplémentaires, les différentes hausses de TVA, la suppression des allègements dits Borloo, ça a été la première mesure, la suppression du forfait, etc., etc. Toutes ces mesures, et malgré ces mesures, le secteur est encore en croissance aujourd'hui. On disait tout à l'heure 16% au niveau de l'emploi pour les entreprises. Au-delà de ça, si vous interrogez les entreprises aujourd'hui, elles sont pour la plupart encore avec des niveaux de croissance à 2 chiffres par an, ce qui, dans le contexte actuel, est exceptionnel. Et compte tenu des mesures qui ont été prises à l'encontre du secteur, est vraiment carrément exceptionnel. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est un secteur qui est porteur. Il y a des besoins exprimés par la société. Et les acteurs sont là pour répondre à ces besoins. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment en tenir compte. Et c'est important. Donc stabilité réglementaire, stabilité fiscale pour pouvoir continuer à travailler, à professionnaliser les salariés, à développer l'emploi. Et c'est le premier point essentiel. Deuxième point essentiel, les services à la personne tels qu'on en parle maintenant, ont été consolidés par le plan Borloo en 2005. Les services à la personne, c'est 22 métiers. 22, c'est ça, j'avais oublié de compter. 22 métiers. Et ces 22 métiers, c'est important qu'ils ne fassent qu'un. Ce sont les services à la personne. Il n'y a pas de services qui sont mieux que d'autres. Il n'y a pas les services au public fragile et les services de confort. Moi, je garde des enfants dans mon métier, j'ai les deux. J'ai le public fragile et le public pas fragile. L'enfant de 3 ans et 2 mois, il est tout aussi important que l'enfant de 2 ans et 8 mois. C'est pareil. Et pourtant, dans un cas, c'est du service de confort et dans l'autre, c'est du service public fragile. Donc, c'est non au dégroupage, c'est non aux filières du grand âge, de la petite enfance, du jardinage, de je ne sais pas quoi. C'est non au dégroupage. Les services à la personne, notre spécificité, c'est que nous intervenons au domicile des bénéficiaires pour leurs besoins dans leur vie quotidienne, que ce soit un enfant en bas âge, que ce soit un enfant scolarisé, que ce soit un ado qui ait besoin de cours de maths, que ce soit une femme active qui ait besoin d'heures de ménage ou une personne âgée qui ait besoin de soutien à domicile. Donc c'est important de conserver ce pack des 22 services à la personne. Et puis on parlait, à l'instant Rémus en parlait sur les 24 heures, il y a une autre forme de dégroupage. On nous oppose toujours entreprise, association, particulier, employeur. On est tous dans la même barque. On est tous les mêmes acteurs. Tout du moins les associations et les entreprises, pour le coup, qui sont des structures, des OSP, ce qu'on va appeler des OSP. On est tous pareils. On fait le même métier. Après, pourquoi en favoriser certains par rapport à d'autres? C'est pas logique. Et deuxièmement, pourquoi également opposer des acteurs dans des textes de loi? On parlait des 24 heures. Les 24 heures, le particulier employeur n'y est pas soumis. Les associations et les entreprises y sont soumis. Pourquoi est-ce qu'on oppose deux branches du même secteur dans des dispositifs réglementaires? Donc c'est ça aussi, la stabilité réglementaire et la stabilité fiscale, c'est tout le monde sur un pied d'égalité. On arrête de faire des spécificités, un coup ici, un coup là, un coup là. Non, tout le monde sur le même pied et les 22 ensemble.
En une minute, est-ce que Guillaume, est-ce que Valérie, vous avez des commentaires là-dessus pour le futur, des souhaits?
Les souhaits pour les futurs, c'est, je dirais, qu'on soit aussi dans un esprit, c'est ce que disait Sandra, enfin, un esprit un peu de partenariat. On fait tous le même métier, et puis par rapport au pouvoir public, qui n'est pas un petit peu ce regard du méchant, de la méchante entreprise capitaliste qui... pour faire court, viendrait se faire de l'argent sur le dos des gens qui sont dans le besoin. Derrière, il y a des emplois, il y a des services, il y a des formations, il y a plein de belles choses. Voilà, donc heureusement les choses évoluent, heureusement les choses vont dans le bon sens, même s'il y a encore un certain nombre de choses à faire, mais que ce soit vraiment dans un esprit où on regarde tous dans la même direction, pouvoir public et acteurs, quel que soit le statut juridique, associatif ou entreprise. Je veux dire, la qualité de service, n'est pas liée au statut juridique. Il y a des associations qui bossent très bien, des associations qui bossent très mal, il y a des entreprises qui bossent très bien, des entreprises qui bossent très mal. Voilà, la seule chose, c'est que derrière, il y a des services, il y a des métiers, et je crois qu'avant tout, ça a besoin d'être valorisé. Voilà.
Je voulais juste faire un dernier petit point sur, avant de passer à quelques questions sur les technos. Je crois que la FESP a lancé un groupe domicile connecté. Vous pourriez nous en dire un petit mot, Sandra Kutzmann-Burgo?
Alors c'est vrai que la FESP vient de lancer un groupe de réflexion qui a pour objet de rendre un livre blanc au printemps prochain, si nous tenons les délais, sur le domicile connecté. Et lorsqu'on parle de domicile connecté, on parle bien de tous les services et de toutes les tranches d'âge. Le domicile connecté, c'est en effet ce que vous voyez là juste derrière la porte, tout ce qui va concerner le maintien à domicile, les personnes âgées, les personnes dépendantes, mais c'est également, ce sont également les enfants, ce qui est applicable souvent aux personnes âgées peut être applicable aux enfants. De la même manière, c'est peut-être même plus facile d'ailleurs de l'imposer au domicile via les enfants qui l'amèneront derrière à leurs grands-parents, pourquoi pas. Mais c'est également pour toutes les femmes, là je pense aux femmes plus qu'aux hommes, mais aux femmes actives. Donc ce domicile connecté, il concerne tout le monde, il concerne tous les services. Et d'ailleurs on parle aussi, je fais une parenthèse, vous savez que c'est le cadeau de Noël a priori préféré pour cette année, le domicile connecté, la montre connectée, le machin pour mesurer ses pas, pour savoir si on fait assez d'exercices et si on monte assez d'escaliers. Donc le domicile connecté, ça va partout. Mais ces technologies-là, elles sont applicables à nos métiers pour pouvoir garantir une meilleure adéquation de nos services, pour pouvoir garantir une meilleure qualité de service pour nos salariés, pour pouvoir travailler plus efficacement. Donc il y a un vrai, il y a un vrai enjeu. Le groupe s'est réuni une première fois pour lancer les trois idées de façon très, pour l'instant, en brainstorming. Et l'objectif est de sortir un livre blanc dans 4 mois c'est ça, hein, Olivier, pour le coup, un livre blanc dans 4 mois. Donc on a beaucoup de travail à faire avec des très grands groupes qui sont autour de la table, des groupes dans les nouvelles technologies, dans les technologies, dans les télécommunications, de gros groupes d'acteurs et de producteurs également. Voilà, donc on espère pouvoir amener notre contribution via ce livre blanc qui sera remis au pouvoir public.
Ok, merci beaucoup.
Avec du coup des enjeux économiques derrière extrêmement importants, parce que là c'était aussi le thème. Qu'est-ce qui va sortir de ce livre blanc? C'est aussi toute une filière économique, des enjeux économiques et des apports pour les entreprises.
Voilà, potentiel économique, ça sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'a pas beaucoup de temps, mais on a le temps pour une ou deux questions. Oui, monsieur.
Il semble dire que le législateur est un peu déconnecté des services à la personne. Il y avait avant l'Agence nationale des services à la personne, qui a été présidée par Laurent Hénard, je crois, qui a été dissoute et intégrée au DGCIS. Est-ce que justement, au niveau de l'avenir, le législateur ne va pas être encore plus déconnecté du service à la personne?
Je ne sais pas trop quoi vous répondre. J'espère que non. Sur la dernière partie de votre question, j'espère qu'il ne sera pas encore plus déconnecté. Aujourd'hui, malgré tout, nous avons une direction générale des entreprises qui gère notre secteur, puisque l'agence nationale a été réintégrée au sein d'une administration. Pour le coup, elle n'a pas totalement disparu non plus. C'est plutôt l'affichage qui a disparu. Et c'est vrai que c'est plutôt dommage. Mais ça, c'est un avis qui ne regarde que moi, pour le coup, et pas ma fonction de présidente du SESP. Mais je trouve ça dommage, en effet. Mais on a, de toute façon, toujours les interlocuteurs que l'on avait avant. Ils sont toujours là. Mais le problème, si vous voulez, sur ces... c'est qu'on dépend, nos services dépendent de X ministères. Donc la difficulté, c'est de trouver le bon interlocuteur en fonction du bon sujet.
Après, si je peux me permettre de rajouter un point, Sandra, je pense que c'est aussi notre rôle en tant que chef d'entreprise d'expliquer, de faire un travail pédagogique. Vous le savez certainement, je pense que tous les membres d'entreprise ici sont adhérents à la FESP, qui est la principale fédération des entreprises de services à la personne, qui regroupe les principaux acteurs du secteur. D'ailleurs, si dans la salle il y a des non-adhérents, je vous y invite fortement. Et la FESP, à travers Olivier Peraldi, réalise un travail auprès des pouvoirs publics qui est essentiel. À la fois un travail pédagogique et à la fois un travail de contestation quand nécessaire, dans le bon sens du terme. Plus cette fédération aura d'adhérents et plus le secteur se structure finalement à travers les réunions que la fédération organise, plus notre voix pourra se faire entendre. Et aujourd'hui, on a quand même le sentiment de savoir taper aux bonnes portes. Et que les messages, même si tous n'ont pas encore été traduits en action, mais du moins qu'ils arrivent à être écoutés par les bons interlocuteurs.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous développez pour retenir vos salariés face aux difficultés que vous avancez concernant les plateformes Internet? Qu'est-ce que vous faites pour les retenir, pour qu'ils n'y aillent pas? D'autant que vous savez leur point fort, d'une certaine manière.
Au-delà d'un certain nombre de mesures que l'on peut prendre pour retenir et fidéliser notre personnel, dans un premier temps, ce sont des profils qui n'attendent qu'une chose, c'est justement d'être suivis et encadrés sur le terrain. Donc elles sont en demande de ce suivi et de cet encadrement. Il ne faut pas croire qu'il y a une liberté totale de leur côté, qu'elles aiment être en permanence, être seules sur le terrain. Ça, c'est bien au contraire. Elles sont déjà seules au domicile avec le client, donc elles ont vraiment un besoin d'être suivies, encadrées, d'échanger avec une équipe. C'est pas un métier facile, à nouveau, donc aussi de pouvoir proposer des groupes de parole, de la formation. au-delà du salaire, elles sont en attente naturellement de cet encadrement, et puis de construire aussi des plannings qui soient cohérents, de pouvoir sectoriser le personnel, d'éviter de passer du temps dans les transports pour éviter de perdre du temps, et ça génère de la fatigue. Donc il y a un certain nombre de mesures et de solutions pour pouvoir d'abord fidéliser nos équipes, les intégrer complètement au périmètre de l'entreprise. Et c'est ça qui est important aussi dans notre métier, c'est que pendant de nombreuses années, elles s'inscrivaient auprès d'une structure, quelle qu'elle soit, on leur donnait un planning, et puis allez-y. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, en tout cas chez nous, et je pense aussi chez Rémus, on n'est pas du tout dans cette position et dans cette dynamique. Au contraire, on veut vraiment intégrer notre personnel à l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. C'est notre carte de visite. Moi, mes auxiliaires de vie, chez Amélis, il y a 5 agences en France, il y a 250 personnes. J'ai besoin de les fidéliser, j'ai besoin de faire en sorte qu'elles soient bien au quotidien, j'ai besoin qu'elles soient bien, je dirais, dans leur basket, qu'elles viennent pas au bureau, entre guillemets, avec une boule au ventre, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un accompagnement, parce que de toute façon, c'est l'image d'Amélis aussi sur le terrain. Bien sûr, derrière, il y a l'entreprise qui doit mettre un certain nombre de procédures en place, d'accompagnement, sélection du personnel, il y a plein de choses, de réactivité, de continuité de service. Il n'y a pas une liste, la liste n'est pas exhaustive, mais pour le personnel, ça c'est essentiel, et elles sont en demande. Se retrouver face à une personne ayant des troubles cognitifs, quand derrière vous ne savez pas vers qui vous tournez pour pouvoir échanger, partager, et quelque part aussi échanger avec vos collègues, au bout d'un moment on abandonne. Voilà. Même si vous avez de grandes qualités humaines, humainement parlant, c'est pas tenable. Donc en termes d'encadrement, de suivi, à nouveau au risque de me répéter, de formation, c'est aussi comme ça qu'on retient le personnel, dans des zones bien, bien sectorisées, pour éviter temps de transport, fatigue et autres. Puis après il y a d'autres solutions, mais ça c'est déjà des solutions qui sont importantes au quotidien.
Et pour compléter simplement, et pour que mon propos sur les plateformes soit bien clair, les plateformes ne viennent pas nous prendre nos salariés. Les salariés qui sont dans les entreprises, qui travaillent avec les entreprises déjà, elles restent dans l'entreprise. Elles ne vont pas chercher ailleurs celles-là. Elles sont pas, c'est pas de celles-là dont on parle. Celles dont on parle, c'est celles qui n'ont jamais travaillé pour les entreprises, justement, qui n'ont jamais eu accès à l'encadrement, à la formation, à tout. Tout ce qui fait la vie d'une entreprise, à ce sentiment d'appartenance. C'est celle qui, pour le coup, peut-être démarre dans ce secteur où on a eu l'habitude de travailler sur des voies moins officielles et qui vont aller vers les plateformes. C'est pas les salariés des entreprises, ce ne sont pas les salariés des entreprises qui vont vers les plateformes. Pour le coup. Donc on ne perd pas de salariés.
Les salariés des entreprises, à partir du moment où vous avez un contrat de travail, vous avez un CDI, vous avez une fiche de paye, vous avez une mutuelle, vous avez d'autres avantages. La formation. Vous avez aucune raison de partir. Comme disait Rémus, vous avez un contrat de travail, que vous fassiez, je ne sais pas, 150 heures ou 90 heures, vous serez payé de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est une vraie stabilité, une vraie sécurité dans l'emploi. Quand vous avez des auxiliaires de vie qui vous disent et qui vous regardent droit dans les yeux, bah, grâce à vous, j'ai réussi à emprunter et je me suis acheté une maison. Voilà, c'est tout rêve d'employeur en France, c'est ça. Le rêve d'un employeur, c'est de se développer, c'est créer de l'emploi. C'est surtout pas l'inverse, surtout pas. Parce que non, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a des choses à revoir. Le rêve d'un chef d'entreprise, c'est de se développer, c'est créer de l'emploi. Et c'est pour ça qu'il se lève le matin.
Je voulais simplement terminer, parce que je crois qu'on est très en retard pour le coup, sur le syndicat donc des entreprises de services à la personne que je préside, le SESP, a signé cette année une convention avec l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est ça, voilà, ça y est, j'y arrive. C'est une première en France avec un parcours des entreprises apprenantes. Donc il y a un certain nombre il y a une dizaine d'entreprises qui sont pilotes sur ce projet. Et c'est aussi, donc le secteur des services à la personne, c'est aussi un secteur qui est en capacité de se remettre en question, puisque même les entreprises, quelque part, remettent en question leur mode de fonctionnement pour devenir meilleur, donc dans le cadre d'un partenariat dont il y aura un rapport à la fin de ce partenariat. Mais là, pour le coup, si vous voulez plus de détails, il faut se rapprocher donc du stand de la fédération qui est sur le salon. Voilà.
Il y avait juste une dernière petite question à monsieur qui a le micro.
Petite, je ne sais pas. Ouais. Moi, je viens de Toulon. Donc, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le métier, puisque... J'ai commencé à peu près il y a 27 ans à m'occuper de personnes âgées. Et tout d'abord dans le cadre d'un EHPAD, puis j'ai développé des résidences seniors. Et dans le cadre des résidences seniors, tout comme Cogedim, j'ai été amené à développer une société d'aide à la personne en 2004. J'ai fait la première société d'aide à la personne, en premier lieu attachée à la résidence avec service. Puis j'ai commencé à développer cette société d'aide à la personne sur la clientèle extérieure. Et là où je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quand même 27 ans que je fais ce métier, ça fait 27 ans que les conflits entre les administrations existent. Les conflits entre l'administration fiscale qui n'est pas cohérente avec l'administration sociale, ça c'est quasiment constant. Et aujourd'hui, c'est vrai, je voulais revenir dessus parce que je trouve que c'est très important. Malheureusement, ça n'a pas été trop développé dans le cadre du débat, c'est cette loi sur les 24 heures. Et je dois dire que, franchement, dans le cadre de ma société d'aide à la personne, la loi sur, on envisage aujourd'hui d'arrêter l'exploitation du domicile, c'est le garder au sein de la résidence, mais on envisage d'arrêter l'exploitation d'aide à la personne à domicile parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec cette loi sur les 24 heures. Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore appliquée. On a essayé de demander un agrément pour devenir mandataire à la place de prestataire et on nous a refusé cet agrément sous prétexte qu'il y a énormément de personnes âgées qui aujourd'hui se retrouvent devant les prud'hommes parce que, en fait, ce sont eux les vrais employeurs et non pas la société. Et donc, notre agrément a été refusé par les pouvoirs publics alors qu'on était déjà prestataire. Mais on nous a refusé l'agrément de mandataire parce qu'on voulait trouver la solution par ce biais et on n'a pas pu la trouver.
Je précise que ça sera le thème de la plénière de demain organisée par la FESP. On en a parlé déjà un petit peu ce matin de
ce sujet 24 heures. Qu'est-ce que j'allais répondre ? Venez demain, éventuellement là-dessus. Demain après-midi. On a une plénière demain après-midi à 15h30. C'est ça. 15h, pardon. Dont la première table ronde, c'est pouvoir public schizophrène, point d'interrogation. Donc je vous invite pour le coup
je serai là.
Et à poser exactement la même question dans les mêmes termes, mais demain.
Ça sera fait.
Et vous aurez les pouvoirs publics pour vous répondre.
Donc on va clôturer cette séance. Merci d'être venu et d'avoir assisté.